France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Karine Bécard, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le président du MEDEF. Vous pouvez dialoguer avec lui par téléphone 01 45 24 7000 via les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Vous aurez la parole, ami auditeur, dans une dizaine de minutes. Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Nous sommes toujours dans la phase ouverte par la conférence de presse du président de la République jeudi dernier. Les premières annonces ont donné lieu hier à un large séminaire gouvernemental à Matignon et à une partition hier soir de plusieurs mois pour les mettre en musique. J'ai l'impression que l'effort substantiel qui va être demandé aux entreprises, vous l'accueillez avec une vive inquiétude, voire peut-être une certaine colère. Est-ce que je me trompe ?
Bon, on est inquiet. On a bien compris depuis jeudi soir que les entreprises allaient payer. D'abord, on ne sait pas combien. Hier matin, Gérard Darmanin nous dit on pourra bien trouver quelques centaines de millions d'euros pour faire participer les entreprises à l'effort général. Et puis lundi soir, le Premier ministre nous dit le financement des 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu, ça sera surtout sur les niches entreprises. Donc il y a déjà un problème de quantum, d'incertitude. Et puis la question plus générale, au-delà de cette mesure, c'est est-ce que les trois prochaines années du quinquennat vont être marquées par l'augmentation des impôts des entreprises ? On sait que ça marche pas. Malheureusement, on voit se dessiner, alors c'est une question aujourd'hui qui est encore ouverte, le retour de la politique de la demande qu'on a bien connue pendant 30 ans, c'est-à-dire on distribue du pouvoir d'achat, c'est bon pour l'économie à court terme parce que ça crée de la consommation, mais comme notre outil productif, c'est-à-dire nos usines grosso modo, sont pas compétitives, on creuse le déficit et finalement on détruit la croissance.
Mais vous avez reçu malgré tout beaucoup de cadeaux de l'État, vous avez été aidé ces 5 dernières années, on peut faire le détail, mais je pense que les Français voient exactement de quoi je veux parler. À un moment donné, il faut peut-être participer quand même à l'effort général, non ?
Alors, juste sur les cadeaux, oui, il y a eu essentiellement le pacte de responsabilité.
Le CICE, c'est 20 milliards chaque année. Le pacte de responsabilité, c'est 50 milliards en 3 ans.
Là, vous êtes en train d'ajouter deux fois le même chiffre. Au total, ça fait 40 milliards.
Bon, mais c'est beaucoup d'argent, on peut au moins dire ça.
Et puis, l'impôt sur les sociétés qui baisse. Non, mais je vais vous laisser parler, évidemment.
40 milliards d'euros qui viennent après 100 milliards d'euros du quinquennat précédent d'augmentation des impôts. Quand on vous prend votre portefeuille, quand on vous prend 100 euros et qu'on vous vend 40, vous en a quand même pris 60. La question, c'est pas tellement les cadeaux, c'est est-ce que l'outil de production française, il est compétitif par rapport à l'Allemagne, par exemple? Ben non, il manque encore 60 milliards. Mais pour revenir sur, oui, on peut participer à l'effort. D'ailleurs, on l'a fait, la prime défiscalisée, que tout le monde appelle la prime Macron, mais que moi j'appelle la prime patron, c'est 2 milliards d'euros. Les entreprises ont versé volontairement 2 milliards d'euros à leurs salariés.
En fin d'année, donc, c'est
enfin,
ça vous faites...
Enfin, en début d'année, en fait. Entre 1er janvier et 31 mars. Donc, on a participé. Et on est prêt à faire un effort pour sortir
bon
de la crise.
Et donc, vous dites, c'est bon, quand Gérald Darmanin vous dit, il faut que les entreprises participent.
Non, je dis pas, c'est bon.
Le sens de l'intérêt national, ça suffit.
Mais on veut comprendre la politique économique. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, le gouvernement s'appuie sur les entreprises pour les rendre compétitives, créer de l'emploi? Ce qui a marché, parce que vous parliez des cadeaux, je reprends votre expression. Depuis 4 ans, depuis le 1er janvier 2014, on a créé 800 000 emplois dans le privé. Alors, c'est pas le fameux million d'emplois de mon prédécesseur, mais c'est quand même 800 000 emplois. Mm-hmm. Donc, on a joué le jeu l'année dernière, 150 000 emplois. Donc, cette politique, elle marche et il faut pas en changer.
Il faut pas
et
la
notre
casser.
Inquiétude, c'est ça. C'est au fond l'incertitude. Il n'y a rien de pire pour un chef d'entreprise, d'ailleurs pour un acteur économique, de pas savoir ce qui va se passer. Et là, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont inquiets.
Et est-ce qu'il y a une forme de ras-le-bol fiscal chez vous et chez les patrons?
Je crois qu'il y a une forme de ras-le-bol fiscal dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on est à 48%, vous savez, c'est ce fameux chiffre des prélèvements obligatoires sur le PIB, sur la richesse. Oui. On est dans un niveau d'impôt, entreprise plus ménage, que très peu de pays ont connu. Il y a simplement la Suède des années 80. Et donc, oui, il y a un ras-le-bol fiscal. Et moi, je vois tout le temps des chefs d'entreprise qui sont soit découragés, soit qui ne veulent plus investir parce qu'ils se disent, comment sera demain, quoi.
Alors, est-ce que malgré tout, il y aurait éventuellement des niches fiscales, puisque de toute façon, on va vous demander d'en nettoyer quelques-unes.
Ça, j'ai compris. Mais...
Est-ce qu'il y a malgré tout des niches fiscales qui, peuvent effectivement être nettoyées, comme on le dit, je pense, par exemple. Je vais vous proposer quelques idées.
Je sais pas si le mot nettoyer n'est pas un peu violent, mais allez-y.
Rénover, si vous préférez.
Supprimer.
Je trouve que c'est pire que nettoyer. La suppression du taux de réduit de TVA dans la restauration, par exemple. Est-ce que cette niche fiscale-là, vous allez essayer
de
la défendre,
marrant,
ou au contraire?
Parce que vous êtes comme Monsieur le Maire. Il me convoque jeudi matin pour me demander de faire des propositions.
Ah, donc c'est jeudi.
Hein, donc voilà, c'est jeudi matin. Donc vous remplacez Monsieur le Maire.
Répondez au ministre, s'il vous plaît.
Je vais répondre au ministre. Moi, je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas vous dire telle ou telle niche fiscale correspond à tel ou tel emploi. Parce que on paye énormément d'impôts. La France est le pays qui paye le plus d'impôts, entreprises et ménages. Et donc, pour contrer ça, on a fait ce qu'on appelle des niches fiscales, c'est des réductions d'impôts. Alors, on enlève une réduction d'impôts. Est-ce que ça va détruire de l'emploi? Moi, je ne sais pas répondre à ça. La TVA pour la restauration, elle a été mise en place pour aider les restaurateurs qui avaient des problèmes de marge. Bon, est-ce que si on augmente cette niche fiscale, on va détruire de l'emploi? Probablement. Combien? Je ne sais pas. Pareil pour le gazole non routier. On nous dit, c'est pas normal que le gazole non routier, donc les travaux publics, aient un dégrèvement de TVA. Peut-être, mais comme ils ont passé leur contrat avec l'État en étant dans les appels d'offres les moins disons avec ce prix-là, vous enlevez cette niche fiscale et il y a un problème de compétitivité.
Mais en tout cas, on ne vous entend pas refuser en bloc cette logique qui est d'aller regarder du côté des niches fiscales.
Je vais vous dire quelque chose. Si c'était une mesure spot, c'est-à-dire, ça veut dire une mesure pour participer à l'effort, et qu'on nous disait par ailleurs, mais vous inquiétez pas, on va continuer à aider l'appareil productif. On va continuer à aider les entreprises françaises qui produisent en France, les usines qui souffrent, qui ferment, et qu'il y ait un cap très clair pour la fin du quinquennat, on participerait à l'effort comme on l'a fait pour la prime. Mmh. Parce qu'encore une fois, cette prime, moi j'ai mobilisé tous les adhérents du MEDEF, c'est pratiquement 30% des entreprises qui l'ont aidé, on n'a pas encore le chiffre définitif. Donc on a fait l'effort parce que le pays est en crise, parce qu'on est des citoyens. Mais là, il y a une incertitude. Je vous dis, dans la même journée de lundi, on nous dit quelques centaines de millions d'euros d'un côté, ou c'est vous qui allez payer principalement. Donc on a besoin de cohérence et de clarté.
Jeudi, vous allez donc voir Bruno Le Maire. Vous arrivez dans quel état d'esprit? Et surtout, est-ce que vous arrivez en disant, bon, on peut peut-être faire des efforts sur telle et telle niche fiscale en particulier?
J'arrive dans un état d'esprit qui est demander de la clarté, du cap, de la cohérence. Où est-ce qu'il reste 3 ans de quinquennat? C'est quoi le cap de ce quinquennat? Parce que le vrai problème d'un entrepreneur, c'est quoi? C'est de savoir de quoi il va être, comment il va être, traité dans les années à venir. Un entrepreneur, il a investi pour 2, pour 3, pour 4 ans. Et donc c'est ça ma demande, c'est quel est le cap?
Dès lors que vous refusez, ou en tout cas que vous semblez inquiet de ne pas connaître le cap, et que vous refusez globalement que le coup de rabot généralisé sur les niches fiscales qui profitent aux entreprises, où on trouve les économies d'après le président du MEDEF?
C'est bien le problème de jeudi soir. C'est bien le problème de jeudi soir, c'est que toutes les sources d'économies potentielles n'ont pas été mises sur la table. Donc la suppression, bien sûr, la suppression des postes de fonctionnaires. Moi, je suis pas, là pour dire il faut faire de la chasse aux fonctionnaires, c'est pas le sujet. Mais on a à l'évidence des secteurs où il y a trop de fonctionnaires, peut-être d'autres où il n'y en a pas assez. Il y a, là aussi, ça fera peut-être pas plaisir à certains de vos auditeurs, mais il y a le temps de travail des fonctionnaires. Il y a un rapport d'il y a une quinzaine de jours qui disait que plus de 300 000 fonctionnaires travaillent moins de 35 heures. Il y a un problème d'équité qui est très clair. Et puis il y a les retraites, où là, le président a été un peu ambigu, puisque finalement il s'est rangé au diagnostic que moi j'avais porté il y a 2 semaines, qui disait l'âge d'équilibre du régime aujourd'hui avec la démographie qu'on a, c'est 64 ans. Mais je ne change pas l'âge légal, je mettrai une décote. Alors, il faut que la décote soit significative pour que ça crée des économies.
Mais ce compromis vous va sur cette façon de formuler les choses, disons?
J'aurais préféré qu'ils disent la vérité aux Français.
Mais c'est-à-dire le résultat n'est-il pas le même?
Ça dépend de la décote, si vous voulez. Il faut une grosse décote pour que ça fonctionne. Et donc, c'est quand même plus clair de dire aux gens, il faudra travailler jusqu'à 64 ans.
Alors, malgré tout, le président, jeudi, a dit aux Français, il va falloir travailler plus. Comment régler le problème du chômage pour commencer? Parce que ce sera entre autres l'objet d'une conférence sociale organisée dès la semaine prochaine, pardon, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on est sur une décrue lente? Est-ce que cette décrue, malgré tout, est durable? Comment on fait pour s'attaquer à ce fléau?
Je ne sais pas si c'est l'objet de la conférence sociale, mais sur le chômage, on est dans une situation très paradoxale. Moi, je ne vois que des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à embaucher. Et dans plein de secteurs.
Qui cherchent, qui trouvent pas.
Et y compris dans des géographies, dans des villes où le taux de chômage est élevé.
Par exemple,
on dit en général, il y a des cas qu'on connaît tous, la Vendée, Laval, j'étais à Laval l'autre jour. Mais là, le chômage est à 4%. Donc on peut comprendre que quand le chômage est à 4%, mais on voit même des villes où le chômage est à 9 ou 10, ou des géographies, et on n'arrive pas à recruter. Donc on a un problème énorme en France, c'est que par rapport aux autres pays, avec un chômage à 9 ou un peu moins de 9, on n'arrive pas à recruter. Donc on a un problème de compétences. Et là, le plan que lance Muriel Pénicaud, enfin qu'a lancé Muriel Pénicaud, la réforme de la formation, va dans le bon sens. On a un problème d'incitation à travailler, et il y a une réforme d'assurance chômage à mettre sur la table qui a été annoncée. Mmh. Et puis, globalement, un problème de mobilité, et je pense que ce sera l'objet de la conférence. Pour aller travailler, il y a des endroits où il faut aller travailler qui pas forcément l'endroit où on habite. Donc, problème de logement, problème de transport.
Deux questions rapides. Muriel Pénicaud confirme qu'il y aura bien un bonus-malus pour responsabiliser les employeurs face au recours excessif aux contrats très courts. Votre réaction ? Vous êtes toujours farouchement opposé à un dispositif de ce genre ?
Je l'ai dit, je le redis, ça ne créera aucun emploi et surtout ça ne créera pas des CDI en CDD. Il y a plein d'autres manières de le faire. On avait fait des propositions. Maintenant, c'est le gouvernement qui gouverne et, j'allais dire, les propositions doivent s'appliquer. Rendez-vous dans 3 ans pour voir si, effectivement, la part des CDI a augmenté. Je signale d'ailleurs, juste petite parenthèse, que depuis le début de l'année, c'est ce qui se passe sans qu'il y ait de bonus-malus.
Mmh. Autre annonce, plafonnement des indemnités chômage pour les cadres. Actuellement, le plafond est fixé à 7 700 euros brut. Il pourrait être amené à 4 000, selon une proposition du député Aurélien Taché.
Petite précision quand même, il y a très peu de gens qui sont indemnisés entre 4 000 et 7 700. Il ne faut pas exagérer sur le fait qu'il y a des gens qui sont au chômage à 6 000 euros. C'est quelques milliers de personnes. Le chômage des cadres est très bas, donc on peut comprendre. Mais il y a un vrai problème, c'est qu'ils ont cotisé et que les entreprises ont cotisé pour eux. Donc en toute logique, si on plafonne l'indemnité, on devrait plafonner la cotisation. Or, je n'ai pas entendu la ministre dire ça.
Alors le chiffre de la croissance au premier trimestre, il a été publié ce matin, plus 0,3%. C'est mieux, pour ainsi dire, que tous les autres pays européens. Comment l'expliquez-vous que tout va bien
c'est la consommation. Vous savez, quand on déverse, enfin pardon l'expression, mais quand on donne de l'argent aux Français, ils vont consommer. Et donc, ils créent de la richesse et de la croissance.
C'est bien ça, non ?
Oui, sauf que quand vous regardez le 0,3, ça devait être 0,4. La différence, ça vient d'où ? Ça vient des exportations. Parce que notre outil productif n'est pas en capacité d'exporter. Et ce que je voudrais pas, je vais faire simple, c'est que cet argent qui est, entre guillemets, rendu aux Français, ça serve à acheter des écrans plats, fabriqués à l'étranger, parce que c'est...
Oui, mais ça prouve quand même qu'il faut leur donner peut-être un peu plus d'argent à ces Français. Malgré tout, ils consomment sans doute un peu étrangers, comme vous dites, mais aux Français aussi.
C'est tout le problème, si vous voulez. Ça fait 30 ans qu'on a une économie qui est poussée par le pouvoir d'achat et pas par l'appareil productif. Les Allemands ont fait l'inverse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en très bonne santé économique, même si l'année est un peu plus compliquée. Donc, je comprends, je suis pas, vous voyez, je vois comme vous la demande de pouvoir d'achat. Mais ce qu'il faut que les Français comprennent...
Mais c'est de la mauvaise croissance, comme il y a du mauvais cholestérol.
C'est de la croissance à très court terme. C'est ça le problème. Et je comprends la contrainte politique. À court terme...
C'est peut-être intéressant de le faire de temps en temps, c'est ça?
Oui, mais comme on l'a fait beaucoup, et depuis 30 ans, et qu'on a délaissé l'appareil productif, c'est pour ça que les usines ferment. Vous savez, il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est compliqué à comprendre, mais finalement, ça illustre bien notre problème. 10% du PIB, c'est l'industrie. En Allemagne, c'est 20%. Et c'est ça, notre différence.
Une question avant de donner la parole aux auditeurs, Geoffroy Roux de Bézieux. Est-ce qu'il faut, selon vous, étendre la mesure de suppression possible de l'ENA aux grandes écoles de commerce, HEC par exemple, ou l'ESSEC, dont vous êtes ancien élève?
C'est une bonne question. Moi, je supprimais pas les grandes écoles. Par contre, je ferai une réforme majeur pour toutes les grandes écoles, l'ENA et les autres, un peu inspiré de ce qu'a fait Sciences Po. Parce que oui, on a un énorme problème d'ascenseur social dans ce pays.
Et d'endogamie sociale.
Bien sûr, et qui s'accélère. Moi, je le vois à ma génération, enfin, quand je compare ma maman, il y a 35 ans, les gens avec qui j'ai fait les études et qui sont restés mes copains et ceux de mes enfants. Et je dirais, mais je vais plus loin, je pense qu'on a vraiment besoin de mettre des quotas et de faire quelque chose de structurant là-dessus. Regardez le chiffre qu'a cité l'OCDE. La France, sur les inégalités, la France est le pays où il y a le moins d'inégalités de revenus de l'OCDE, contrairement à ce qu'on croit, mais le plus d'inégalités de destin. Il faut 6 générations pour passer du bas de l'échelle au milieu de l'échelle, ce qui est quand même incroyable. Et
donc,
c'est un problème d'éducation.
Ne pas supprimer les grandes écoles, mais en réformer en profondeur le recrutement, c'est ça ce que vous
dites ? Le recrutement, la sélection, de façon à sortir de l'endogamie. Et c'est valable pour l'ENA comme pour le reste. Je trouve un peu démagogique de faire de l'ENA où il y a 40 ou 50 élèves par an le symbole de tous nos problèmes. Par contre, qu'il y a un problème d'endogamie, qu'il y a un problème de mixité sociale, qu'il y a un problème d'ascenseur social, oui, ça c'est un vrai sujet.
Allez, on fonce au standard où Marie-Thérèse nous attend. Je vous salue Marie-Thérèse, bonjour, vous avez la parole.
Bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Ma question va peut-être vous paraître naïve, mais les Gilets jaunes réclament évidemment, vous venez d'en parler, du pouvoir d'achat. À aucun moment, ils ne se sont tournés vers les entreprises. Or, beaucoup autour des ronds-points sont sûrement salariés. Moi, c'est ma première interrogation, parce que quand même, s'ils travaillent, c'est leur salaire qui doit être augmenté. Et évidemment, quand on voit les sommes énormes qui sont débloquées pour Notre-Dame, que je ne critique pas, puisque tant mieux pour le patrimoine, mais bon, il y a quand même des grands patrons qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Merci Marie-Thérèse pour cette question. Les Gilets jaunes réclament du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, augmentation des salaires. Vous nous avez répondu prime. Le principe d'une prime, c'est qu'elle est ponctuelle.
Elle est pérennisée, hein, comme enfin, voilà. Elle est annoncée pérennisée. Non, alors, je peux pas répondre sur les augmentations de salaire de cette année parce qu'il est encore un peu tôt. Ce que je comprends de mes adhérents et différentes branches professionnelles, c'est que ce qu'on appelle les NAO, donc négociations annuelles obligatoires, vont plutôt être assez positives cette année. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises ont fait une bonne année 2018, en réalité. Les résultats sont bons. Et donc, les augmentations de salaire de l'année début 2019 seront bonnes. Ça répond pas, évidemment, à toutes les demandes. Mais pour aller dans le sens de l'auditrice, sur les ronds-points, en tout cas au début, on avait beaucoup de salariés du privé. On avait même, d'ailleurs, quelquefois, des chefs d'entreprise et des indépendants. Hein. Et une des revendications, c'est quand même aussi le sujet du déplacement vers le travail. On a oublié, nous, que 70% de nos salariés prennent la voiture pour aller travailler. Les entreprises payent 10 milliards d'euros pour financer les transports en commun, mais sur la voiture, il n'y a rien. Et là, c'est un vrai sujet.
Oui, Karine me permet, juste dans le sillage de la question de Marie-Thérèse qui parlait de Notre-Dame de Paris, le mécénat est aussi une énorme niche fiscale. Est-ce qu'il faut la maintenir, celle-là, à tout prix, ou regarder s'il ne faudrait pas la supprimer ou la raboter?
Décidément, vous êtes comme Bruno Le Maire, vous me demandez des suggestions de suppression de niche fiscale.
Il y a Le Maire et Darmanin, matin.
Non, vous vous sentez persécuté, là.
Sur le mécénat.
Blague à part, maintenant.
Pour être sérieux, c'est 900 millions de réduction d'impôts. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a 3,7 milliards de versés par les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui, soit parce qu'ils atteignent le plafond, soit parce qu'ils ne bénéficient pas des niches, ne bénéficient pas de la réduction d'impôts. Maintenant, est-ce qu'il faut le plafonner? La question peut être posée. Au moment de Notre-Dame, c'est peut-être pas le bon moment.
On plaisante avec Le Maire et Darmanin, mais là encore, plus sérieusement, est-ce que vous êtes associé au travail de l'exécutif? Les corps intermédiaires, les syndicats disent on n'a aucun rapport avec le gouvernement, on ne nous consulte pas jamais, et même on nous méprise parfois un tout petit peu. Est-ce que le MEDEF dirait la même chose ou pas?
J'ai envie de vous répondre avec une boutade. On est associé quand on a besoin d'argent. Donc, vous voyez, là, on est invité. Est-ce qu'on est associé à la conception globalement de la politique? Écoutez, on est traité comme les syndicats de salariés.
Donc, la dernière fois où vous êtes allé à Bercy, c'était quand?
Oh, c'était la semaine dernière. Non, ça, j'y vais souvent à Bercy. Mais en général, c'est pour qu'on me demande de l'argent ou qu'on demande de l'argent aux entreprises.
Oui, vous êtes traité comme les syndicats. C'est ça ce que vous dites.
Oui. Après, si vous voulez, sur la notion de corps intermédiaire, en 10 secondes, il faut aussi qu'on soit en capacité collectivement. Je l'ai dit à Laurent Berger, il n'y a pas très longtemps, de faire des propositions. Il y a une tribune qui est parue hier dans Le Monde sur l'Europe, qui est co-signée par MEDEF et CFDT. Je pense que ça passe aussi par une capacité de proposition des corps intermédiaires.
On est en ligne maintenant avec Alexis. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Alexis. Soyez le bienvenu.
Je voudrais réagir au fait qu'en fait, le MEDEF et M. Geoffroy Roux-de-Bézieux souhaiteraient un recul de l'âge légal de départ à la retraite et confronter cette idée au fait que dans les entreprises privées, en fait, à partir de 45 ans, c'est un peu limite. À environ 50 ans, on est ringard. Et à 55 ans, c'est extrêmement difficile de retrouver un emploi puisqu'on est trop vieux, trop cher. On est une espèce de dinosaure inemployable.
Oui, merci pour cette question, Alexis, qui pose bien le paradoxe de ce marché du travail à la française. Geoffroy Roux-de-Bézieux vous répond.
Alors, votre auditeur exagère un tout petit peu, mais c'est un vrai problème. En fait, le problème, le taux d'emploi des seniors, donc le nombre de seniors employés, il a beaucoup augmenté entre 50 et 60 ans. Mais c'est après 60 ans, avec la retraite à 62 ans, que objectivement, nous, on a un problème. Quand je dis nous, c'est les employeurs. Et quand j'ai présenté nos propositions sur la retraite il y a une dizaine de jours, j'ai soulevé le problème, j'allais dire spontanément, en disant oui, il faut qu'on fasse un effort collectif, employeur, pour être capable de garder un emploi, pas forcément dans le même poste, des gens au-delà de 60 ans. On a quand même quelques petits problèmes techniques. J'en cite un, le cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, vous liquidez votre retraite dans le privé et vous continuez à travailler, par exemple en temps partiel, vos cotisations et les cotisations de l'entreprise ne comptent pas. Enfin, comptent pas. Si, ils abondent le régime de retraite, mais ils comptent pas pour vous. C'est-à-dire que vous améliorez pas votre retraite en continuant à travailler. Donc, on doit changer un certain nombre de règles. Et nous, on doit changer notre comportement pour être capable de garder en emploi, peut-être dans un poste différent, éventuellement avec un salaire différent.
Voilà, je voulais en venir là. Éventuellement, c'est ce que vous aviez dit, éventuellement avec un salaire effectivement moindre, ça veut dire que finalement, on va être payé à sa productivité si on travaille moins. Alors, on est payé moins cher.
Un sujet complexe, je voudrais pas tomber dans les caricatures, mais quand vous avez quelqu'un qui est, directeur commercial, et qui arrive à 62 ans et qui dit, écoutez, moi j'ai pas envie d'être aussi exposé, de travailler autant... J'accepte de passer 2 ans, de reprendre un poste de commercial classique, mais par contre la rémunération baisse de 10 ou 20%, mais je fais encore 2 ans, et puis après je prends ma retraite avec évidemment une retraite plus élevée. C'est une discussion qu'il faut pouvoir avoir en entreprise, ce qui n'est pas facile.
Ouais.
Et pardon, j'ajoute un point, il y a aussi un dispositif qui est très peu connu, qui est la retraite progressive, c'est-à-dire je prends un travail à 3 jours par semaine, je suis payé 3 jours par semaine, et les 2 autres jours, j'ai 2/5 de ma retraite.
Rémunération. Ouais. Ah d'accord. Mais alors du coup, est-ce qu'en échange, les hyperactifs, les dynamiques, les trentenaires, les quadragénaires, il faudrait les payer un peu plus ?
Alors c'est l'idée d'Emmanuel Macron de travailler plus en fonction de l'âge. Bon, nous on y réfléchit, c'est très compliqué à mettre en entreprise parce que vous auriez autour de la table des gens qui sont avec des temps de travail, des heures hebdomadaires différentes en fonction de leur âge.
Trop compliqué à organiser.
En tout cas, le cadre actuel, légal, social, ne le permet pas. Est-ce que intellectuellement, c'est une idée séduisante ? Oui, on sent bien quand même qu'il y a des mamans de la vie où on a envie de travailler plus, d'autres moins, ou s'occuper de sa famille.
Mais pourquoi les entreprises considèrent les vieux comme des boulets ? Vieux, non, on l'est dès 45 ans. Hein.
Bon, donc je vous rassure, j'ai 56 ans, donc je me sens très vieux.
C'est étonnant tout de même.
Non, c'est pas des boulets. D'abord, j'ai pas dit ça et je crois pas que c'est le cas. Par contre, vous avez deux sujets. Il y a un sujet de productivité. Alors, on n'a pas évoqué, mais il y a des métiers pénibles, des métiers difficiles physiquement. Et là, il faut prendre en compte aussi les carrières longues pour ne pas demander à des gens qui arrivent à un âge où ils peuvent plus exercer le métier, en tout cas dans les mêmes conditions. Après, vous avez aussi un sujet de renouvellement, c'est-à-dire que vous avez envie quelquefois, quelqu'un qui a été en poste 10-15 ans, de relancer l'entreprise et son poste avec quelqu'un de plus jeune. Et c'est vrai dans les médias, si je puis me permettre,
bien
de
entendu,
temps en temps.
Mais vous avez entièrement raison.
Je ne dis pas ça pour vous d'ailleurs.
Non, mais il n'y a pas de problème. Évidemment que c'est un sujet, mais l'expérience est une valeur.
Mais bien sûr,
il n'y a pas que la jeunesse.
Non, mais bien sûr. Et donc, d'où.
Dis-le bientôt, quinquagénaire.
D'où la nécessité pour nous de trouver des organisations, notamment dans les grandes organisations, où on peut utiliser des experts, des coachs.
Mais les DRH existe. Réfléchissent à tout ça en ce moment.
Écoutez, ils réfléchissent, mais je dois vous le dire, je pense qu'on est très en retard par rapport à l'Europe du Nord. Moi, je vois ce qui se passe en Suède. En Suède, il y a depuis longtemps une capacité à employer les seniors dans des fonctions différentes et de manière différente. Et c'est vrai que nous, je le dis, votre auditeur a raison, il a exagéré en disant 45 ans, parce que c'est vrai que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais on n'est pas bon là-dessus, et on a vraiment un travail à faire.
La préfecture de police de Paris a demandé à tous les commerçants de fermer boutique et de se barricader sur le parcours de la manifestation du 1er mai. Vous redoutez les débordements demain à Paris ?
Oui, ça me permet de dire quand même qu'il y a une partie de nos adhérents qui souffrent énormément, c'est les commerçants de centre-ville, des quelques grandes métropoles. Parce que un samedi, ça va. 3 samedis, ça commence à faire beaucoup. Mais là, il y a vraiment des problèmes de trésorerie énormes. Et comme c'est souvent des petites entreprises ou des franchisés, donc en tout cas, c'est pas des grands groupes, il y en a qui vont mettre la clé sous la porte. Ça, c'est clair et net.
Une dernière question sur l'ISF. Le président donc n'est pas revenu sur sa suppression. Il a promis, en revanche, de l'évaluer, comme il avait dit dès le départ, en réalité. 18 mois après cette suppression, est-ce que les ex-assujettis ont commencé malgré tout à investir dans les PME? C'était l'engagement, enfin l'idée qui était perçue. J'imagine quand même que...
Dans les PME ou dans les entreprises.
Vous vous en rendez compte?
Toutes les entreprises. Écoutez,
l'investissement... Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que ça bouge?
Je vais vous faire deux réponses. D'abord, oui, il faut évaluer l'ISF, mais il faut l'évaluer au bout d'une période qui est raisonnable. Le premier ISF non payé, enfin remplacé par l'IFI, c'est juin 2018, c'est à moins d'un an. Bon. Deuxième chose, oui, il faut de l'investissement, l'investissement est en croissance. 2018 a été une très bonne année pour l'investissement. Est-ce que c'est l'ISF seulement ? Non, évidemment. Parce que pour faire de l'investissement, il faut d'abord avoir confiance dans l'avenir. Donc faisons un bilan complet, et faisons un bilan en fin de quinquennat.
Mais vous voyez pas un mouvement déjà quelque part ?
Je vous le dis, non, que l'investissement se porte très bien.
Merci Geoffroy Route-Bézieux, 56 ans, senior en pleine forme, hein, c'est un donc 48 ans dans quelques jours qui vous remercie voilà d'être venu au micro de France Inter ce matin.